BFM TV, Calvi 3D, Yves Calvi.
Dans moins de 45 minutes, place à l'événement de l'entre-deux-tours. Gabriel Attal, Marine Tondelier, Jordan Bardella sont ce soir face à BFM dès 20h30. Maxime Switek, est-ce que tout est prêt pour accueillir les trois leaders en question ?
Alors tout est prêt, mais il y a une atmosphère un peu étrange ici, Yves, parce que tout est prêt, mais tout est vide. Il y a un calme absolument parfait sur ce plateau 1, juste à côté de votre plateau, vous le voyez, c'est vide. Les gradins sont vides pour l'instant, le public va arriver. La chaise des invités est vide, vous l'avez dit, les trois invités qui vont succéder. D'abord Gabriel Attal, puis Marine Tondelier et enfin Jordan Bardella. Ils auront une heure chacun à 4 jours de ce choix historique, c'est comme ça qu'on a intitulé ce face à BFM, vous le voyez sur les images de Médéric Soltani, un choix historique. Et pour que les Français puissent faire leur choix ce soir, une heure par candidat, je le disais, ou en tout cas par meneur de ces trois blocs, et donc face à eux, face à BFM, vous voyez Nicolas Dose, Apolline de Malherbe et Benjamin Duhamel qui vont les interroger, chacun dans leur couloir, chacun dans leur sujet. Ils auront, je vous le disais, une heure. Ça commence dans 40 minutes maintenant, 20h30, c'est l'événement de l'entre-deux-tours, et c'est tout à l'heure sur BFM TV, Yves.
Rendez-vous est pris. Merci infiniment, Maxime. Coalition des modérés, Rassemblement des démocrates, Assemblée plurielle ou encore gouvernement arc-en-ciel. Chacun propose un nom ou un cadre à l'alliance qui pourrait gouverner la France sans majorité absolue à l'Assemblée nationale. Une nouvelle façon de diriger le pays, mais peut-être aussi pas très éloignée de ce que nous avons vécu en fait ces derniers mois. C'est ce que nous allons voir dans notre séquence Les Éclaireurs. Bonsoir Maëva Lamy.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre. Il y a en effet de nombreuses réformes qui ont été adoptées ces derniers mois grâce au compromis entre différentes formations politiques.
Exactement. Alors on va prendre un exemple emblématique, la loi immigration adoptée en décembre 2023, texte porté par Gérald Darmanin et finalement adopté avec 349 voix pour et 186 voix contre, adopté avec le soutien de députés RN et LR, et pour cause, le texte avait été très fortement durci. Un autre exemple de ces lois qui ont été adoptées grâce à des alliances. Le projet de loi pour le plein emploi et la réforme décriée du RSA, texte voté cette fois-ci en novembre 2023 avec 190 voix pour et 147 contre, le fruit cette fois-ci d'un compromis avec la droite, puisque l'exécutif a adopté une des demandes de la droite, instaurer un minimum de 15 heures d'activité hebdomadaire pour les demandeurs d'emploi, notamment les bénéficiaires du RSA.
Alors parfois, Maëva, ce sont des compromis avec les écologistes ou la gauche, qui ont permis de faire passer des projets de loi.
Tout à fait, pas seulement avec la droite, c'est notamment pour ce qui concerne les lois en matière d'écologie. On va prendre un exemple, la loi sur les polluants éternels, un texte des écologistes visant à restreindre la vente de produits contenant certains polluants. Eh bien, il a été voté à l'Assemblée en avril dernier avec le soutien de certains élus Renaissance, Modem et Horizon. C'était donc le fruit d'un compromis puisque ces polluants ont été interdits dans les vêtements et les cosmétiques, demande des écologistes, mais autorisés dans les ustensiles de cuisine, demande cette fois-ci de la majorité présidentielle. Et puis on va prendre enfin un dernier exemple, la loi pour accélérer la production d'énergie renouvelable adoptée en janvier avec 286 voix pour, 238 contre, et cette fois-ci avec le soutien de députés socialistes.
Merci beaucoup Maëva Lamy. Jean-Paul Garot, même sans majorité absolue, est-ce que vous comptez être le moteur de la nouvelle Assemblée en proposant de nombreux textes et en cherchant des alliances ponctuelles pour les faire passer ?
Non, il nous faut la majorité absolue. Ma réponse est très claire, il nous faut la majorité absolue. Parce que si nous n'avons pas la majorité absolue, nous ne pourrons pas faire la politique qui est tellement attendue par nos concitoyens.
Donc vous nous confirmez que Jordan Bardella n'acceptera pas un éventuel poste de Premier ministre si vous n'avez pas une majorité absolue.
Il va vous répondre tout à l'heure, encore une fois. Le principe est bien sûr celui de la majorité absolue. En fonction du résultat des élections, nous verrons bien, il peut y avoir peut-être certains députés qui évolueront dans leur conception des choses. Il peut y avoir un certain nombre de choses qui peuvent se produire, mais le principe est la majorité absolue. Il faut que nos concitoyens comprennent bien que si nous n'avons pas cette majorité absolue, ceux qui pourraient avoir par cette assemblée de coalitions hétéroclites, qui pourraient faire un peu ce qu'ils veulent, ça serait calamiteux pour le pays. Et le pays serait bloqué. Lorsque vous montrez effectivement un certain nombre de dispositions comme la loi immigration qui sont passées grâce à des voix donc, qui viennent un peu de partout, parce que nous avions réussi à faire passer un certain nombre de choses, mais il ne faut pas pas oublier qu'après, le Conseil constitutionnel a complètement, excusez-moi du terme, ratiboisé cela. Voilà, parce que le président n'en voulait pas. Donc, si vous voulez, tout le monde, actuellement, là, ils sont plus ou moins tous d'accord par rapport à ce que nous voulons faire. Et ils ne veulent pas perdre leur place, leur poste. Ils ne veulent pas cela. Ils ne veulent pas changer de système. Or, nos concitoyens nous demandent absolument de changer les choses. Et en cela, nous, encore une fois, on n'est pas là pour avoir des postes, on n'est pas là pour s'asseoir dans des fauteuils de ministres.
Mais si vous arrivez, au pouvoir, on ne change pas de système. On change juste de majorité.
Non, mais regardez c'est factice, ce qui se passe.
Ah bon ?
Ce qui
se
passe est factice. Parce qu'en réalité, vous avez des députés comme Madame de Renaissance, qui, alors qu'elle pourrait se maintenir, se désiste au profit d'une candidate LFI qui n'a pas
dans la vie politique, on a le droit d'avoir des convictions. Enfin, en tout cas,
mais et que fait-on des citoyens? Que fait-on du respect de tous les concitoyens qui ont voté pour vous, madame?
Eh ben, Cécile Rilhac va vous répondre.
Finalement, parce que si vous leur avez demandé, leur avis, je pense qu'ils ne seraient absolument pas
en deux temps. Cécile Rilhac.
La majorité.
On a compris, Jean-Paul Garon.
Vous n'avez rien demandé,
Jean-Paul Garon. On a compris.
Ça fait partie pendant la campagne des questions, d'ailleurs, qui m'ont été régulièrement posées. Parce qu'en effet, durant cette campagne, avant le premier tour, eh bien, en effet, les concitoyens, mes concitoyens sur mon territoire, j'étais députée depuis 7 ans, et en effet, étaient très inquiets. Ils étaient très inquiets à la fois de voir la plage du NFP, mais aussi de voir la montée du Rassemblement national. On en a beaucoup discuté. Moi, ce que je leur avais dit, c'est que si j'étais en capacité, en effet, de pouvoir remporter ces élections, bien évidemment que j'irais jusqu'au bout. Ce qui s'est passé au soir du premier tour, c'est que je n'étais pas en capacité de gagner. À partir du moment où je n'étais pas en capacité de gagner, et donc je ne souhaite pas conserver mon siège ou je ne sais pas quelle musique comme quoi la soupe est bonne et que je vais absolument vouloir conserver mes petits privilèges. Eh bien non, j'ai préféré justement prendre une décision de dire je me désiste puisque je ne peux pas gagner. Je souhaite me désister de manière à ce que justement le Rassemblement national ne puisse pas remporter ma circonscription. Ce n'est pas du tout la même chose que
vous. Aurélie Trouvé, pardonnez-moi, vous les avez quand même beaucoup critiqués depuis qu'ils sont au pouvoir, et là vous êtes tout à fait d'accord pour prendre leur voix.
D'ailleurs, je le dis, si nous refuserons un quelconque gouvernement qui ne permette pas de mettre en œuvre notre programme du nouveau Front populaire, c'est-à-dire un programme de gauche, soit dit en passant, et pas d'extrême gauche. Un programme de gauche, c'est ni plus ni moins que, par exemple, ce qu'avait porté Mitterrand dans les années 80, la réforme de la retraite à 60 ans, alors que le Rassemblement national nous propose maintenant une retraite à 66 ans, la hausse des salaires, etc. Et donc, j'en arrive. Par exemple aussi, on vous a laissé parler, monsieur. Donc, je vous le dis aussi, nous sommes les seuls, par exemple, à porter la bifurcation écologique, qui est quand même un des grands absents de ce débat politique. Maintenant, je voudrais aussi saluer ce qu'a dit Cécile Rilhac, parce que je crois que ce que nous partageons ensemble, ce qui fait que nous aussi, nous nous sommes désistés dans un certain nombre de circonscriptions, c'est parce que nous considérons que le Rassemblement national est le parti qui n'est pas un parti comme les autres, parce qu'il ne porte pas de valeurs républicaines, parce qu'il a été fondé, je le rappelle, par des nazis, parce qu'il y a d'élus...
Non, vous la laissez terminer, je vous redonne la parole.
Oui, mais s'il vous plaît, parce que...
Non, monsieur Garot, c'est
merci. Parce qu'il y a nombre d'élus, nombre de responsables du Rassemblement national, qui est avant du Front national, qui ont été poursuivis et parfois condamnés pour des propos racistes. Je rappelle par exemple qu'un des députés de Fournasse a dit en plein hémicycle, parlementaire, à mon collègue Carlos Bilongo, retourne en Afrique.
Est-ce que vous êtes sûr que tout est clair dans vos rangs?
Non, mais j'essaie de répondre.
Parce que les leçons de morale, c'est bien, mais...
Aucun d'entre nous n'a jamais été ni poursuivi ni accusé pour propos racistes, mais surtout, je le dis, c'est que nous avons toujours combattu toutes les formes de racisme. Et dernier élément, puisqu'on dit que le Rassemblement national ne porte pas de valeurs républicaines, non seulement c'est une attaque des migrants et des étrangers, mais aussi des femmes, et Cécile Rilhac l'a très bien expliqué. La moitié quasiment des élus du Rassemblement national a voté contre le droit à l'avortement dans la Constitution. Vous savez même contre quoi ils ont voté? Contre le remboursement des dépassements d'honoraires quand une femme a un cancer du sein. Oui, il faut revenir quand même à la réalité.
Jean-Paul Garot vous répond.
Bon, madame, moi je vais être beaucoup plus court que vous. Simplement, je voudrais simplement vous demander, puisque je suis accusé, nous sommes accusés d'être racistes, parti fondé par des SS, etc. Bon, est-ce que vous pouvez me dire, madame, est-ce que vous pouvez me dire... Je peux parler ?
Merci. J'attends votre réponse, alors.
Merci. Est-ce que vous pouvez me dire, madame, pourquoi M. Karsfeld ne veut pas voter pour nous et voter pour nous ?
Vous avez été fondé ou pas ?
Est-ce que je peux... Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Pourquoi M. Karsfeld ? Vous connaissez M. Karsfeld, Serge, et son fils, Arnaud.
Non, mais moi, je vous parle
d'un fait. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ces personnes, qui sont effectivement des gens qui ont... en ce qui concerne M. Carcel, père, pourchasser les nazis, qui sont absolument des gens qui pourchassent toute forme d'antisémitisme, ont décidé de voter pour le Rassemblement national et pas pour vous, madame. Alors, est-ce que vous pouvez nous le dire? Est-ce que vous pouvez répondre à ça?
Arrêtez les diffamations. Arrêtez les diffamations.
Répondez.
Franchement, je vais vous le dire. Ce qu'il a dit, pour moi, est une faillite morale. Parce que. Je vous le dis. Parce que, oui, nous n'avons. Je le dis, nous ne sommes absolument. Nous n'avons jamais.
C'est indigne.
Nous n'avons jamais été ni poursuivis ni condamnés pour des propos racistes. Ni antisémites. Vous, oui. Il y a une devant-candidate qui a porté une casquette.
Quand vous défilez à côté du Bataclan. En criant à la barre avec les autres, vous ne dites rien, qui portait une casquette nazie, vous dites quoi? C'est normal.
Alors, dans l'ordre, s'il vous plaît.
Le parti antisémite de base, c'est le vôtre. Le problème, c'est que vous avez tout fait. Sauf que les Juifs de France ont très bien compris. Il va falloir vraiment que vous ne soyez pas au courant.
Il y a d'autres invités à qui nous devons donner la parole. Je sais que vous voulez intervenir. Pierre Giacometti, vous m'avez fait signe.
En fait, ce que je trouve intéressant dans la stratégie du Rassemblement national, depuis le début d'ailleurs, hein, fixer comme objectif une majorité absolue, c'est assez audacieux. Hein,
oui.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche à installer l'idée de la détermination à pouvoir gouverner et à restaurer une certaine forme de tradition dans les institutions de la Ve République où la majorité absolue est plutôt le cas dominant. Deuxièmement, on veut mobiliser les électeurs. Ce qui est intéressant dans la stratégie d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal ces derniers jours, et je trouve ça plutôt réussi, c'est d'installer l'idée que l'argument n'est plus simplement de faire barrage au Rassemblement national et donc à cette option-là, mais d'installer l'idée qu'il y a une troisième voie. La seconde, c'est le nouveau Front populaire. Mais on voit bien aujourd'hui que la capacité du Front populaire à obtenir une majorité absolue n'est pas, le moins qu'on puisse dire, une solution probable compte tenu des équilibres électoraux issus du premier tour. Et la stratégie aujourd'hui de la majorité sortante, c'est l'idée d'installer une troisième voie possible. Et on le voit bien sur les plateaux.
C'est quoi la troisième voie?
Celle que vous avez
décrite. Ça n'a jamais existé dans notre pays, dans la vie politique de notre pays.
Mais vous l'avez décrite au début. Depuis maintenant trois jours, on parle de cette option possible d'une majorité alternative qui n'est pas la même que la gauche plurielle de 1997, pour revenir à cet exemple. C'est l'idée d'avoir une possibilité d'une majorité composée qui va... du Parti communiste, on enjambe LFI, pardon, excusez-moi de l'expression, on passe au vert, on va jusqu'au centriste, à la majorité présidentielle actuelle, c'est-à-dire à Renaissance, et on va jusqu'au député LR qui serait compatible et intéressé à l'idée... Je décris la situation, je ne suis pas politique, je vous décris. C'est intéressant, c'est-à-dire, le sujet n'est pas de dire aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est d'installer cette alternative. Pourquoi? Parce qu'il faut convaincre les hésitants qu'il y a une troisième voie possible. Et vous revenez, je reviens un instant.
Vous venez de nous décrire ce qu'on appelle la majorité plurielle, là ?
Une nouvelle forme de majorité plurielle, en fait. C'est Gabriel Attal qui l'a intitulé de cette façon-là. Pourquoi est-ce que ce sujet est très sensible ? Dans le scénario de majorité relative, on a vu l'une des projections en siège, la première d'une série qui va sortir cette semaine. Il y a majorité relative et majorité relative. Si le Rassemblement national est proche de, disons, 270-280 députés, il peut effectivement aller chercher les soutiens qui lui manquent pour passer la majorité absolue. Mais s'il est, comme dans la projection de ce soir, la première, autour de 220-230, eh bien le pari d'Emmanuel Macron, c'est de dire « j'ai empêché la victoire du Rassemblement national, son résultat des européennes n'est pas confirmé et je peux constituer une sorte de nouvelle majorité, très éteclie, très improbable ». On ne sait pas trop comment ça peut fonctionner, mais peu importe pour l'instant. L'idée, c'est d'installer le récit d'une alternative possible à ce qui représente pour lui le danger numéro un, la victoire par majorité absolue du Rassemblement national.
Vous êtes convaincu, Tugdual Denis?
Alors non, mais
j'ai l'impression que non.
Le diagnostic est implacable sur ce qui se passe en ce moment. En revanche, je crains fortement que cette troisième voie que vous décrivez, Pierre Giacometti, ressemble à un déni de vote. C'est-à-dire que les gens...
C'est pas sans risque, vous avez raison.
Les gens ont voté et on leur dit à l'issue du vote, hop, on déchire la copie, vous avez mal voté. Vous votez Nouveau Front Populaire et vous êtes LFI, qui sont majoritaires quand même au sein du Nouveau Front Populaire. Non, on va garder que ceux qui nous intéressent au nouveau Front Populaire. Vous votez à 34% pour le Rassemblement National. Non, le Rassemblement National n'aura pas voix au chapitre dans cette élection. La vérité, c'est que ce Front Républicain, il ressemble à un cache-gamelle où tout le monde va aller à la soupe pour essayer de...
Je ne connaissais pas la notion de cache-gamelle.
C'est un ancien ministre qui me l'a soufflé tout à l'heure de droite... pour être très franc. Bah, mais
citez-le.
Citez-le. Jean-Louis Borloo.
Voilà.
J'ai trouvé l'expression.
Le centre droit.
J'ai trouvé l'expression très bonne. Et effectivement, c'est pas une alliance de conviction. Quand vous avez la gauche plurielle, on comprend pourquoi Lionel Jospin travaille avec Dominique Voynet. Mais là, qui comprendra que Laurent Wauquiez, j'y crois pas, mais même Xavier Bertrand travaille avec Fabien Roussel. Ça n'a absolument aucun sens. Et ce que disent les électeurs depuis le en même temps d'Emmanuel Macron, c'est pas « Ah génial, on adore quand c'est un coup de barre à droite, un coup de barre à gauche ». Ben, ils votent de plus en plus à gauche et de plus en plus à droite. Ils refusent cette espèce de magma impalpable de la vie politique qui est devenu le macronisme. Ce qu'ils veulent, c'est un retour de clivage, même un truc très polarisé.
Je vous ai senti dubitatif, vous aussi.
Oui, je crois qu'il y a quand même une donnée de base, c'est la clarté. Je veux comprendre et savoir pourquoi je vote. Quand je vote pour le Rassemblement national, je comprends l'offre politique qui m'est faite. Quand je vote pour le Nouveau Front populaire, j'ai un programme. Alors, je mets un petit astérisque quand même, c'est des gens qui s'envoyaient des noms d'oiseaux avant l'élection et qui risquent de se les envoyer à nouveau le lendemain, dont on n'est pas sûr qu'ils arriveront à gouverner ensemble. Mais enfin, ils ont présenté un programme. La troisième voie, qu'est-ce que c'est entre ceux qui veulent un SMIC
un pays mystérieux.
À 1600 euros et ceux qui ne veulent pas en entendre parler, entre ceux qui ont fait voter la réforme des retraites et ceux qui demandent la suppression, entre ceux qui ont fait passer la loi sur l'immigration et ceux qui en demandent le retrait, ces gens-là peuvent gouverner ensemble pour faire quoi? Et la difficulté, c'est que ce projet-là, il n'est absolument pas défini. Et il ne peut pas l'être, puisque, par définition, il ne peut qu'être négocié au lendemain du deuxième tour.
Cécile Rilhac, on vote pour un camp ou pour une personne aux législatives?
Ah ben, on vote pour un camp, c'est clairement, puisque même les députés qui sont implantés dans leur territoire, qui ont travaillé, de toute manière, ont été balayés. Donc oui, on vote pour un camp. Il est clair que ces élections ont montré un rejet du clan centriste au premier tour. Il faut être très honnête avec le vote des électeurs. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, il y a ce projet politique. Moi, je reste convaincue, c'était la question de mon engagement en 2017, qu'on peut avoir des coalitions politiques qui ne sont pas des compromissions et que lorsqu'on doit faire avancer le pays, il ne faut surtout pas le bloquer. Et moi, ce que j'appelle au lendemain du 7 juillet, c'est de la responsabilité justement des gens, des élus qui seront dans cet hémicycle, qui ne soient pas outranciers comme la France insoumise a pu l'être, qui ne soient pas à certains moments manichéens comme certains du Rassemblement national l'ont été, mais qui puissent y avoir, comme ça a été démontré tout à l'heure, en effet une voie de passage pour le pays.
Je suis désolé, je ne peux pas vous donner la parole. C'est votre engueulade tout à l'heure avec Jean-Paul Garraud qui a pris du temps. Et on doit aborder le troisième dossier. Merci infiniment les uns et les autres.